Alors, une petite question pour commencer. Où a été prise cette photo? Alors, je vous donne quelques indices. Nous sommes le 18 février 2021. Et ça ne vous aide pas beaucoup, hein, mais l'autre indice est peut-être un peu plus éclaircissant. Elon Musk ambitionne de construire à cet endroit une ville de 250 000 personnes. Si ça vous intéresse, alors il faudrait juste aimer, on va dire, hein, les radiations solaires, les tempêtes de poussière qui décoiffent, les cailloux, il y en a plein. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène. Voilà. Donc je crois avoir entendu la réponse. Hein. Nous sommes évidemment sur Mars, hein, c'est le petit robot Persévérance, hein, qui a pris cette photo. Et vous allez me dire, il faut quand même beaucoup de foi, ou plutôt de folie, ou d'ambition, ou d'imagination, pour concevoir effectivement une ville à cet endroit. En plus, l'horizon est plutôt proche. Hein. Mais bon. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que parler de destinations inconnues, parler de voyages, parler de foi dans des choses qui sont impossibles, bah, c'est quelque chose justement dont parle beaucoup la Bible. Et on va parler justement, nous aussi, d'un grand voyage, un voyage en terre inconnue, celui qu'a effectué Abraham dans Genèse 12. Abraham, c'est un personnage que j'ai choisi de survoler un petit peu cette année. Donc c'est un petit peu le premier épisode aujourd'hui, et puis plus si affinité. Hein. Et ce premier épisode, je l'ai donc intitulé « Il était une fois, celle d'Abraham ». Alors, on va tout de suite aller dans Genèse 11, et on va lire du coup ce passage. Donc Genèse 11, à partir du verset 26, et nous lirons jusqu'au chapitre 12, et nous nous arrêterons au verset 6.
Voici l'histoire de la famille de Théra. Il eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Théra, dans son pays natal, à Ur des Chaldéens. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Iska. Sarai était fertile, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Théra partit d'Ur des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. Théra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. » Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il amena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan.
Alors, on va s'arrêter ici. Lorsque nous lisons ce récit, on va justement adopter ce plan-là. Hein. On va d'abord s'intéresser d'abord à l'appel de Dieu, puis la réponse à son appel, et ensuite, nous verrons donc les conséquences, enfin, ce que cela implique finalement pour Abraham. Alors tout d'abord, l'appel de Dieu. Cet appel, il est important de le rappeler, hein, commence donc au chapitre 12, mais je pense qu'il faut quand même s'intéresser un petit peu à ce qui se passe avant, notamment au chapitre 11. Et au chapitre 11, vous avez cette histoire, hein, qui parle notamment de cette fameuse tour de Babel, cette tour que les hommes ont construite pour se faire un nom. Les hommes avaient à ce moment-là une seule langue, mais au lieu de l'employer à louer Dieu, ils décident finalement de s'éloigner du chemin que Dieu avait choisi pour eux, hein, et à l'inverse, ils vont se rassembler pour lui jeter un défi. Ils construisent une tour pour devenir les égaux de Dieu. Ils veulent s'assurer par leurs propres moyens l'accès au ciel. C'est une entreprise prométhéenne, collective, totalitaire, comme il y en a eu plein d'autres ensuite dans l'histoire des hommes, et comme malheureusement il y en a encore aujourd'hui. Un seul peuple, une seule langue, une seule race, voilà le projet de Babel, un projet orgueilleux. Et comme au commencement, quand les hommes font ce genre de choix, ils ouvrent la porte à Satan qui en profite pour prendre la place de Dieu. C'est l'introduction de l'idolâtrie dans le monde, la tour de Babel. Mais le projet de Babel ne verra pas le jour, car Dieu choisit lui-même de venir semer le désordre, on le voit dans Genèse 11, verset 7. Il disperse ses hommes sur toute la terre. Ils confondent leur langage, ils ne pourront plus se comprendre. Alors ça, c'est déjà un encouragement pour nous, hein, parce que tous les projets totalitaires qui peuvent se mettre en place, ils sont voués à l'échec. Ils ont une durée de vie limitée. Et on le voit avec ce projet de Babel. Et surtout, hein, on le voit au chapitre 12, Dieu va prendre de nouveau l'initiative et il va choisir cet homme dont on ne sait absolument rien, hein, Abraham, et il va justement choisir de lui révéler, hein, cet appel. Dans Josué 24, verset 2, il est dit ceci, hein, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. » L'idolâtrie de Terah et des hommes de la région était donc un monde opposé à Dieu. Et c'est donc du milieu de l'idolâtrie, hein, qu'Abraham va être retiré par l'appel du Dieu de gloire. Première chose qui, je pense, est importante, Dieu fait la même chose aujourd'hui quand il choisit de nous appeler. Il nous appelle hors d'un monde qui s'est éloigné de Dieu. Il nous appelle hors d'un monde qui, comme à Babel, un monde qui a choisi justement de se glorifier, un monde qui a choisi de ne plus être soumis à Dieu. Un monde où les plus hauts édifices que l'on construit ne sont plus à la gloire de Dieu. On construit des tours pour les grandes entreprises humaines, on construit des tours résidentielles, on ne construit plus des cathédrales pour la gloire de Dieu. L'appel de Dieu à le suivre, c'est toujours quelque chose qui va nous retirer de l'idolâtrie. De l'idolâtrie du monde, de l'idolâtrie des autres. Comme pour Abraham, Dieu met devant notre foi les choses invisibles, ce qui semble inconnu, mais qui est déjà connu par notre Créateur. En effet, du verset 1 à 3, l'Éternel donne à Abraham un témoignage précis, touchant l'héritage à venir. Il le met en contact avec un univers où demeure sa gloire divine, et il place dans son champ de vision une cité éternelle dont Dieu est l'architecte, en contraste total avec la tour de Babel, qui elle est visible des yeux, mais qui n'est qu'éphémère, car elle est le fruit de l'orgueil des hommes. Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Le ton utilisé ici est très fort, et on a finalement du mal à le traduire en français. C'est un impératif d'urgence. Dans la Bible d'Arbi, le texte le plus littéral on va dire, hein, c'est traduit par cette formule, hein, « Va-t'en ». Dieu ordonne à Abraham de tout quitter, car il est en danger. Quand Dieu nous appelle, il faut parfois s'affranchir de certaines relations, car elles ne conduisent pas à ce que Dieu veut pour les siens. Abraham doit quitter le pays, De même, le croyant doit abandonner le monde et les liens affectifs qui s'y attachent quand ceux-ci entravent une marche selon Dieu. Et surtout quand ceux-ci nous rattachent encore à l'idolâtrie de Babel. Abraham est tout jeune dans la foi à ce moment-là. Ce n'est que son premier appel. Et il n'a pas les armes pour résister. C'est pour ça que Dieu lui dit de partir tout de suite. Alors qu'il était venu conquérir le Mexique, le conquistador Hernán Cortés imposa à ceux qui étaient avec lui une mesure qui était radicale. Sitôt qu'ils aborderaient les côtes mexicaines, l'ordre a été donné de démonter tous les bateaux et même de les brûler. L'objectif était clair, impossible pour eux de revenir en arrière. La seule perspective qu'ils avaient, c'était soit de rester à rien faire, ou soit tout simplement d'aller de l'avant. Toute retraite, tout retour en arrière était donc impossible. Et nous devons savoir qu'avec Christ, il y a des choses avec lesquelles, effectivement, il faut les laisser derrière. Abraham devait quitter cette région pour toujours. Il fallait couper les ponts, il fallait brûler les bateaux. D'après ce que l'on sait, la Mésopotamie de l'époque était le berceau d'une civilisation brillante. On pourrait la comparer, on va dire, aujourd'hui à New York. C'est vraiment une ville, ce territoire qui était vraiment un territoire au summum, finalement, à l'apogée de la civilisation. Mais elle était aussi un lieu où on adorait dans de hauts ziggourats. Les ziggourats, c'était les temples de l'époque, deux divinités. Le dieu Nama, qu'on appelle aussi Sin, qui était le dieu du soleil, et le dieu Utu, qu'on appelle aussi Shamash, qui était le dieu de la lune. Abraham ne pouvait pas servir Dieu dans cet endroit-là. Il ne pouvait pas être l'instrument de sa bénédiction pour tous les peuples s'il ne quittait pas urgemment ce lieu, ce haut lieu de l'idolâtrie. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24. Encore une fois, Abraham, à ce moment-là, est au début de sa relation avec Dieu. La parole d'autorité de Dieu, qui met donc en route Abraham, et l'exfiltre, en quelque sorte, ce n'est pas comme ce dicton qui dit « Pars et advienne que pourra ». La parole de Dieu est à la fois un commandement, mais c'est aussi une promesse. On l'a chanté tout à l'heure. Cette promesse, c'est un peu comme un casque à réalité virtuelle. Alors je sais que quand on en porte un, on n'a pas l'air très malin souvent, mais ce casque nous montre un horizon des possibles. Un horizon des possibles exceptionnel, exponentiel. Voilà ce que Dieu veut nous montrer. Bien évidemment, ces promesses, on va les citer, les versets 2 et 3 les mentionnent, il y en a 7. Première promesse, je te ferai devenir une grande nation. Abraham a 75 ans à ce moment-là, sa femme est stérile. Okay. Je te bénirai. Le profond désir du cœur de Dieu est de bénir l'homme qui croit en lui, on le sait. Je rendrai ton nom grand. Son nom traversera les époques. Son nom sera celui qui sera uni finalement, associé à l'Éternel. Tu seras une bénédiction, quatrième promesse. Les croyants fidèles seront toujours le sel de la terre. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham est le commencement d'un témoignage pour Dieu, un témoignage qui ne rencontrera pas forcément le même accueil. Et enfin, promesse numéro 7, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Une dernière promesse qui est particulière, car ce verset sera cité par Paul dans l'Épître aux Galates. Ce verset, bien évidemment, est indissociable au plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. C'est finalement, ce verset parle déjà un petit peu de Jésus. Donc ça, c'est important, je pense, ces promesses. parce que elles permettent finalement de mettre en mouvement Abraham. Il n'y a pas de... On en reparlera après, hein, mais c'est quelque chose qui le met en mouvement. Et finalement, c'est pour ça qu'il part, hein, parce que il va répondre à cet appel. Alors, dans cette partie, on va justement voir Abraham qui va donc partir. On va se poser plusieurs questions, des questions qui ne sont pas si simples que ça. Hein. Tout d'abord, d'où vient la foi? Comment avoir la foi? Est-ce qu'on peut trouver la foi est-ce qu'on peut la trouver? Et est-ce que la foi permet le doute? Qui est à mon sens une question essentielle, et on ne pourra pas apporter une réponse concrète aujourd'hui. Hein. Il faudra d'autres messages. Comme le montre ce détail de la chapelle Sixtine, la foi ne vient pas de l'homme. La foi, elle est suscitée par Dieu. Elle est le résultat de son initiative. Le texte que nous avons lu le montre clairement. C'est par sa parole que Dieu adresse son appel à ses élus, hein, d'où vient la foi. Romains 10, verset 17 le dit, « Alors la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » La parole reste le moyen privilégié au travers duquel Dieu s'adresse au cœur. C'est par elle qu'il mobilise leur être et leur volonté en vue de l'accomplissement de ses projets. De plus, ce n'est pas Abraham qui a choisi ou cherché Dieu. C'est Dieu qui a choisi et cherché Abraham. Quand je me suis converti, j'étais tout feu tout flamme. Et je pensais qu'en exposant mes arguments à ma famille, je pourrais les convertir. Je pourrais en quelque sorte susciter cette foi qui était justement dans mon cœur. C'était presque orgueilleux de ma part. C'était presque une tour de Babel finalement, ce projet. Et j'ai compris que finalement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors déjà, je suis parti et mes parents finalement connu Dieu d'une autre manière, très loin de moi, finalement. Et j'ai compris cette chose, que j'ai peut-être semé effectivement quelques idées, hein, mais c'est Dieu qui les a appelés à le suivre. Néhémie 9, verset 7 dit ceci, « C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir d'Our en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Dieu a choisi Abraham, comme il a choisi ensuite Amos ou Jérémie les prophètes, ou comme Jésus choisira plus tard Paul et ses disciples. Si nous sommes au bénéfice des promesses de Dieu aujourd'hui, cela est dû à la grâce qui nous a faite en Jésus-Christ. La foi, c'est aussi une réponse à l'appel. Donc, elle est suscitée par la parole de Dieu, mais elle implique aussi de notre part une décision. La foi, c'est aussi croire et avancer. Le verset dit « Mets-toi en marche ». Quand Dieu, le Père ou le Fils, nous appelle à la foi, c'est un mouvement. Elle exige de notre part l'obéissance et la décision d'avancer. Le philosophe danois Søren Kierkegaard dit ceci « Il est difficile de croire, non parce qu'il est difficile de comprendre, mais parce qu'il est difficile d'obéir. » Souvent, on demande à Dieu de nous montrer la voie. Mais quand il faut y aller, on procrastine. Et on finit justement par douter. Et on fait du surplace. Quand Dieu montre une voie, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Vamos, let's go. Il n'y a pas de temps à perdre. La foi, c'est un peu comme une dynamo que l'on connecte au phare du vélo. Hein. Quand vous avancez, il éclaire. Quand vous vous arrêtez, il s'éteint. Si vous voulez que votre foi soit lumineuse pour vous et pour les autres, obéissez et avancez là où Dieu vous appelle. Alors ok, mets-toi en marche, mais où partir? Dans le lieu habituel? Alors voilà, si vous tapez ça sur Waze, effectivement, hein, ça va être compliqué hein, de trouver justement la destination précise. Malgré son imprécision, l'appel de Dieu porte sur une destination. Abraham quitte son pays d'origine pour se rendre dans un nouveau pays que Dieu va lui montrer. La foi que Dieu nous demande, avec les ruptures qu'elle implique, n'est pas forcément un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Cette foi à un objet, on a dit tout à l'heure, ce sont ses promesses. C'est parce que Dieu nous a fait une promesse certaine que nous nous mettons en route vers le lieu qui nous a destiné. Mais très concrètement, la foi ne serait pas la foi si on aurait justement chaque étape qui nous serait bornée, hein, comme pour un GPS, va à droite, va à gauche. Non. La foi, si elle devait s'appuyer sur la vue, si elle était un GPS précis, hein, ce ne serait pas justement la foi. Hébreux 11, verset 8, dit ceci. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel que Dieu lui a ordonné de partir dans un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. On continue toujours dans Hébreux 11, verset 1, cette fois. La foi est un acte d'obéissance, mais il est aussi, hein, Hébreux 11, une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi ne permet donc pas le doute. Ou alors, un doute fugace, éphémère, passager. Car elle repose sur la vérité de la parole de Dieu. Donc, si on a un doute, il faut l'évacuer tout de suite. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ce passage, et c'est pour ça que je vous dis qu'Abraham est à ses débuts, hein, parce qu'il commet quelques petites erreurs. Par exemple, Abraham lui dit de tout quitter, de quitter sa patrie, sa parenté, et il n'obéit que partiellement. Vous l'avez peut-être vu, hein, il choisit de prendre avec lui son père. Il choisit de prendre avec lui son neveu, Lot. Et on va le voir, ça va avoir des conséquences. Ensuite, il va vers Canaan. Où est-ce que c'est écrit, hein, que Dieu lui a dit justement de partir à Canaan ? Canaan, c'était le projet de son père. Dans Genèse 11, verset 31, il est dit que c'était son père Terah qui voulait aller en Canaan. Dieu lui offre un avenir et finalement Abraham part avec son passé. Et en plus, il part avec toutes ses richesses. Ce sont des petites erreurs qui auront des conséquences ensuite. Et ça, on le verra un petit peu après. Mais en même temps, c'est encourageant pour nous parce qu'on sait qu'on ne va pas être jugé sur la vitesse que nous mettrons à croire ou à obéir. On ne va pas être jugé sur notre capacité à comprendre les promesses de Dieu. Hein. On le voit ici, hein, Dieu est patient. Mais tôt ou tard, Abraham va devoir se séparer de son père, de son neveu. Il va aussi devoir se séparer plus tard de son fils Ismaël, de son fils Isaac. Bref, la vie chrétienne, c'est une vie de séparation continuelle, jusqu'à ce qu'il nous reste qu'une seule chose, Dieu, sa parole, ses promesses. Croire, avoir la foi, c'est aussi lâcher prise, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Dieu qui nous soutienne. Voyons maintenant cette fameuse odyssée dans l'espace cananéen, et on va lire la suite du passage.
Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Et il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, et d'étape en étape, il gagna le Négev.
L'odyssée spirituelle débute et prend fin donc au verset 6. Abraham devient un pèlerin dans cette fameuse terre promise. De ses premiers pas en Canaan, dans le pays de Canaan, on peut apprendre trois choses qui, à mon sens, sont importantes pour nous qui sommes les enfants d'Abraham dans la foi. Première chose, nous sommes des étrangers et des pèlerins. Abraham a quitté l'idolâtrie, mais l'espace dans lequel Il se trouve, Canaan, c'est un espace qui est aussi hostile à sa foi en Dieu que ne l'est Mars pour la vie. Ce pays que foule Abraham est occupé par les Cananéens, qui manifestement n'ont pas la même foi que lui. Et Dieu n'a pas prévu de les chasser tout de suite. Ça se fera bien plus tard. Et on le sait, d'après ce que nous dit Deutéronome 18, des versets 9 à 12, les Cananéens, alors c'est pas les Babyloniens, mais ils pratiquaient quand même des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc, force est de constater que ce pays dans lequel arrive Abraham va être un pays dans lequel il sera mis à l'épreuve. Sa foi et sa confiance sera mise à l'épreuve. Et il y a un message pour nous. Effectivement, parfois, Dieu nous appelle à quitter l'idolâtrie, mais la destination finale, elle n'est pas encore là. Pour l'heure, la terre qui nous est destinée, elle est occupée par d'autres, des Cananéens, qui ne sont pas des adorateurs de Dieu comme nous. Comme Abraham, bien que cette terre soit à nous et qu'elle nous est destinée, pour l'heure, elle est occupée par des gens dont les valeurs morales peuvent être à l'opposé des nôtres. Nous devons constamment nous souvenir de cela. Nous ne sommes pas dans un monde propice au développement spirituel de notre foi. L'atmosphère actuelle dans laquelle nous vivons agresse notre espérance, agresse notre âme. Elle met en péril notre confiance en Dieu. On le voit avec les événements actuels qui peuvent parfois nous pétrifier, nous émouvoir, parfois nous faire culpabiliser aussi. Bref, cet environnement reste un environnement hostile à notre espérance. Il faut qu'on garde donc en tête les promesses de Dieu, qui, comme ce scaphandre, sera très utile pour repousser toutes les radiations solaires du diable, si je devais paraphraser Éphésiens 6. C'est l'oxygène de la parole de Dieu qui nous permettra de vivre sur cette planète hostile, cette planète qui est étrangère. De ce fait, et c'est la deuxième chose importante que l'on voit dans ce passage, Abraham va devenir un pro du camping. Dans ce passage, on le voit, c'est sous des tentes qu'il va vivre. C'est dans des tentes qu'il va se déplacer dans ce pays. D'étape en étape, Abraham n'a pas de demeure fixe. Il n'a aucune maison, il n'a pas de home sweet home en Canaan, pas d'adresse cosy où il pourrait un petit peu se reposer. Il s'installe au chêne de Morée quelque temps, puis on le voit, il lève le camp pour se déplacer un peu plus tard vers les montagnes, près de Bethel. Sur le plan de son statut, Abraham vit en sédentaire. Pardon, il ne vit pas en sédentaire, il vit en nomade dans cet espace. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans la Bible. D'ailleurs, Dieu lui-même a habité pendant quelque temps dans une tente, le fameux tabernacle. Alors attention, je ne vous demande pas d'aller à Decathlon juste après pour vous acheter une tente Quechua et d'habiter ensuite sous des tentes. Mais je pense que la première conséquence du fait d'être étranger et voyageur dans ce pays va toucher forcément à notre style, pas notre style de vie, mais plutôt à l'état d'esprit dans lequel nous sommes. On n'est pas là pour s'enraciner au plus près des Cananéens. On est des nomades, on cherche l'accomplissement des promesses de Dieu à chaque instant, et on n'est pas des sédentaires qui s'enracinent, s'accommodent, s'acculturent au mode de vie cananéen. On le verra par exemple plus tard, il y en a un qui fera cette erreur, c'est Lot, justement. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, nous dit 1 Pierre 2, verset 11. Et Jésus ne dit pas autre chose quand il rend compte de cette vérité, dans Jean 17, verset 14 à 15, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Enfin, troisième chose essentiel que l'on voit dans ce passage. L'activité spirituelle d'Abraham à Canaan a consisté à construire des autels. Des autels dans les lieux où il s'est déplacé. Il bâtit un premier autel à Sichem, un autre à Bethel. Partout où il passe, l'idolâtrie trépasse. Il laisse pour Dieu une trace dans ce pays, un témoignage du Dieu qu'il adore. Là aussi, comme Abraham, en tant qu'étrangers et voyageurs dans ce monde, nous avons chez les Cananéens la mission aussi de construire des autels. Alors, la tente, elle témoignait de la vie d'Abraham et de sa relation avec le monde. L'autel témoigne au contraire, enfin dans la foulée plutôt, de sa relation avec Dieu. L'autel montre qu'Abraham est un adorateur. Et l'autel, c'est exactement le contraire de la tour de Babel. L'autel, c'est un témoignage qui est un témoignage individuel, qui montre la relation personnelle qu'on a avec Dieu. C'est aussi un... concrètement, quelque chose que l'on va... un témoignage concret de notre adoration pour Dieu. Alors que Babel, rappelez-vous, on a dit, c'est un projet totalitaire, collectif, d'un peuple qui a voulu orgueilleusement s'élever sans Dieu. L'autel, c'est exactement le contraire de la tour de Babel. Et vous savez que le plus grand autel ici-bas, qui a été construit ici-bas, le fut par Jésus. C'est la croix de Golgotha. Sur ce lieu où tous les hommes ont découvert finalement la volonté de Dieu pour les hommes. La croix nous parle certes du sacrifice auquel Jésus a consenti pour notre salut, et on l'a célébré tout à l'heure, mais elle nous parle aussi, et ça on le pense peut-être un peu moins, du grand amour, du zèle que Jésus a eu pour la cause de Dieu, la cause de Dieu et son projet pour le monde. La croix de Golgotha, c'est aussi ça. Partout où Abraham s'est déplacé, nous voyons que la première chose qu'il a faite, c'est donc de construire un autel. Et c'est aussi là notre mission. Partout où Dieu nous envoie, laissons dans tous les lieux la marque du témoignage de notre adoration à Dieu. Parfois, il faut fuir l'idolâtrie quand elle est trop menaçante. Parfois, Dieu nous exfiltre, comme il l'a fait pour Abraham, quand il était à côté de cette tour de Babel. Et parfois, effectivement, il nous demande, quand on est un peu plus... quand cette relation est plus forte avec lui, de bâtir des autels. Alors, si on devrait conclure ce message, on pourrait dire que cet appel, cette réponse, cette foi, nous montre finalement pas mal de choses pour notre vie actuelle. Tout d'abord, Dieu nous appelle à sortir de l'idolâtrie du monde. Dieu nous appelle ensuite, et c'est cette main ferme qu'il nous tend, à saisir par la foi les promesses qu'il met devant nos yeux. C'est le début de cette marche que nous faisons en tant que voyageurs, exilés, sur cette terre qui est une terre hostile. La vie de citoyen du ciel n'est pas toujours facile, ici-bas. Mais guidés par les lunettes de la foi, nous pourrons justement bâtir des autels pour Dieu. Abraham n'a pas regardé à lui-même, mais aux promesses de Dieu, comme nous sommes appelés à regarder les promesses de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a promis, on l'a dit tout à l'heure, qu'il reviendrait. Jésus-Christ nous a promis la fin de toutes ses souffrances. Alors soyons encouragés par cette promesse. Gardons-la toujours avec nous. On va prier.